les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour Sylvie Barnet.
Bonjour Hélène Renard.
Pour la fête de la Saint-Jacques, que l'on fête traditionnellement le 25 juillet, vous avez décidé de nous parler de Saint-Jacques de Compostelle, évidemment de son célèbre pèlerinage. Alors ce Saint-Jacques, lequel est-ce? Parce que je crois qu'il y en a plusieurs dans l'histoire.
Alors, c'est Saint-Jacques l'apôtre, hein, celui que toute la tradition crédite d'avoir été envoyé en Galicie pour y prêcher la bonne nouvelle. Et la tradition veut que Saint-Jacques ait été décapité par le roi Hérode, et qu'ensuite il ait été ramené en Galicie, donc Espagne actuelle, dans un tombeau où ses restes ont été retrouvés.
Voilà, c'est le frère de Saint Jean.
C'est le frère de Saint Jean,
c'est
le frère de l'apôtre Saint Jean.
D'accord. Alors justement, le mot Compostelle aussi, j'aimerais bien que vous nous donniez une petite explication sur ce joli mot.
Alors là, il faut que je retourne à l'histoire. Hein. Et l'histoire, c'est en 1123, la création de l'archevêché Saint-Jacques de Compostelle par le pape Calixte II. Et le pape Calixte II fait de Saint-Jacques de Compostelle un archevêché. Et à ce moment-là, il suscite un rassemblement de textes épars dans un manuscrit connu sous le nom de Codex Calixtinus, donc du nom du pape, le Codex de Calixte, pour assurer la dévotion à l'apôtre Jacques et pour assurer la promotion de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, ça va sans doute vous étonner, Hélène, qu'on assure une promotion au Moyen-Âge.
Pas tellement, parce que je pense que les églises avaient intérêt à faire venir les pèlerins. C'était bon.
Tout à fait.
Donc, on faisait venir des reliques aussi pour avoir des pèlerins. C'est un peu normal.
Et alors, c'est là où je vais vous raconter le joli nom de Saint-Jacques de Compostelle.
Alors,
parce que pour assurer la promotion de pèlerinage, soit on écrivait un livre de miracles, soit on écrivait la légende du lieu. Et là, dans le Codex Calixtinus, on trouve inséré un récit qui raconte comment a été découverte de manière miraculeuse le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. Et le récit raconte comment un ermite nommé Pélage,
qu'on a traduit Pélagis, à Pélage en français. Oui.
Pélage, voilà. A eu une révélation dans son sommeil où il dit qu'il est guidé par une étoile dans le ciel. Et alors après, vous avez, comme le veut l'intelligence narrative au Moyen-Âge, vous avez toutes sortes de récits qui vont se pencher sur l'étymologie du mot. Campus stellae, le champ de l'étoile, parce que selon le récit, selon un des récits, eh bien cet ermite aurait été guidé par une étoile dans le ciel. Alors évidemment, on pense au roi mage.
Oui, ça, c'est déjà fait. Oui.
Il y a, selon un procédé narratif habituel au récit visionnaire du Moyen-Âge, il y a un décalque entre le récit biblique et puis la réalité légendaire que l'on veut adapter. Et en même temps, retrouver l'étymologie d'un mot au Moyen-Âge, on dit joliment, c'est aller toucher les origines. Hein, c'est un petit peu comme si on avait voulu faire de Saint-Jacques de Compostelle, et bien finalement, le lieu où a vraiment été annoncée la bonne nouvelle, comme dans la Bible, par les rois mages. Donc c'est très joli, si vous voulez. Hein, c'est recréer un lieu d'apostolicité à Saint-Jacques de Compostelle, nouvel archevêché, en 1123.
Mais est-ce que véritablement le tombeau de Saint-Jacques a été retrouvé là, à Saint-Jacques de Compostelle?
Alors, c'est pas à l'historien de le dire.
C'est une légende, hein,
mais c'est comme pour les reliques de Marie-Madeleine. Plusieurs lieux vont se disputer les restes des reliques de l'apôtre, puisque au Moyen-Âge, la relique, c'est un corps saint qui a touché un corps saint auprès duquel les fidèles se pressent afin de venir prier l'apôtre. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du XIIe siècle, il y a un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle qui se met en place et qui lance sur les routes de la chrétienté tous les pèlerins, enfin beaucoup de pèlerins, en direction de Saint-Jacques de Compostelle, mais ils allaient aussi dans des lieux mariaux, ils se rendaient dans différents lieux pour prier et pour invoquer les saints.
Alors, justement, vous nous avez parlé de ce codex Calixtinus. Est-ce que ce codex était d'abord, je suppose, pas écrit en français, mais en latin? Est-ce qu'il était connu de la population?
Alors là, je vais peut-être décevoir plusieurs de nos auditeurs, mais ce Codex Calixtinus intègre plusieurs livres, dont un livre qu'on attribue à un moine poitevin, Emery Picot, dans lequel il indique sommairement qu'il existe 4 routes en France qui conduisent à Saint-Jacques et qui fusionnent pour 3 d'entre elles à Ostabat dans les Pyrénées-Atlantiques, puis à Puenta la Reina en Espagne pour former le chemin français. Et il détaille les étapes, il donne aussi des renseignements sur les régions traversées et leur population. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas du tout d'un guide du pèlerin. C'est un livre d'ailleurs qui a été édité de manuscrits pour devenir consultable par tout un chacun, seulement à la fin du 19e siècle, en 1882.
À la fin du 19e siècle.
Mais il circulait vraisemblablement oralement au Moyen-Âge. Mais il ne faut pas y voir seulement une invitation à aller à Saint-Jacques, parce que en fait, les travaux des historiens montrent que ce document de Emery de Picot était aussi une sorte de louange ou d'éloge, une invitation au couronnement du roi Alphonse VI, qui se voulait l'égal de Charlemagne et qui voulait créer une grande Aquitaine qui irait de Saint-Jacques de Compostelle, mais qui partirait de l'Aquitaine, du Rhône jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle et qui réunirait des grands sanctuaires comme le Puy et Vézelay, traditionnellement considérés comme des étapes du chemin de Saint-Jacques. Et donc, si vous voulez, il y a là une espèce de contamination des récits. Mais ce qui est certain, c'est que ces pèlerins, on les voit sur les manuscrits enluminés et on les voit avec les insignes caractéristiques.
Alors rappelez-les-nous ces insignes.
Alors le grand chapeau, la besace, le bourdon et puis surtout l'insigne de pèlerinage avec la coquille. Alors les insignes de pèlerinage, elles fleurissent au Moyen-Âge. Vous en avez toutes sortes. Par exemple, pour Chartres, eh bien, c'était une petite chemise parce que c'est là qu'on disait que la chemise de la Vierge se trouvait placée comme relique. Et puis pour Saint-Jacques, c'est la fameuse coquille. Alors ce sont des coquilles de pectins, des mollusques, qu'ils fixaient sur leur manteau ou à leur chapeau, d'où le nom de coquille Saint-Jacques qui sera donné par la suite à ces mollusques et qu'on déguste.
Avec plaisir,
aujourd'hui. Et la coquille Saint-Jacques était le signe que, à l'issue du voyage, eh bien, c'était bien un homme régénéré. Le pèlerinage, c'est retourner aux sources, c'est se convertir. C'était bien un homme nouveau qui rentrait au pays et qui était allé toucher au plus près du Christ, l'apôtre.
Est-ce que la Reconquista lancée par les rois catholiques espagnols a eu une influence sur ce pèlerinage ?
Alors bien évidemment, parce que lorsque l'archevêché est créé, on est en pleine période de Reconquista. Et en fait, le chemin français épouse les chemins commerciaux traditionnels par lesquels notamment les marchands se rendaient en Espagne et qui sont aussi les chemins par lesquels l'Espagne a été repeuplée au fur et à mesure qu'elle redevenait chrétienne. Donc toute l'histoire du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est aussi à replacer dans une dimension historique plus grande qui est celle de la Reconquista qui a lieu entre le XIe et le XVe siècle.
Sylvie Barnet, il y a beaucoup sans doute d'auditeurs qui vont ou qui ont fait déjà le chemin de Compostelle. Est-ce que vous pouvez nous donner un livre historique de référence ?
Alors écoutez, je vous recommande le livre de Denise Péricard-Méa qui s'intitule « Compostelle et culte de Saint-Jacques au Moyen-Âge ». C'est paru au PUF en 2002. Et pour ceux qui voudraient aller plus vite, il y a du même auteur, Denise Péricard-Méa, « Une brève histoire du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle » publié au PUF en 2003. Et je pense que là, ils trouveront tous les renseignements destinés à leur raconter les chemins de Saint-Jacques. Je rappelle d'ailleurs que la Fédération française de randonnée pédestre a établi des chemins de Saint-Jacques à partir du début des années 70, qui épousent bien sûr les anciens tracés, supposés tracés historiques.
Merci Sylvie Barnet, et peut-être rendez-vous sur un des chemins de Saint-Jacques cet été. À bientôt.
À bientôt.